Bienvenue à l'Église réformée du Bouclier à Strasbourg. Nous sommes heureux de vous proposer la méditation de ce dimanche.
Et je vous propose ce matin de nous pencher sur un texte tiré du livre des Juges, au chapitre 4, l'histoire de Déborah. Après la mort d'Éhoud, les Israélites firent de nouveau ce qui déplaît au Seigneur. Et le Seigneur les livra à Yabin, un roi cananéen dont le chef de l'armée était Sisra. Yabin possédait 900 chars de fer et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Alors, ceux-ci appelèrent le Seigneur au secours. À cette époque, Déborah, femme de Lapidote, qui était prophétesse, rendait la justice en Israël. Elle siégeait sous un palmier, appelé ensuite palmier de Déborah. C'est là que les Israélites venaient la consulter. Et un jour, Déborah convoqua Barak. Elle lui dit « Voici ce que le Seigneur t'ordonne. Va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon et conduis-les sur le mont Tabor. J'inciterai Sisra, le chef de l'armée de Yabin, à venir t'attaquer avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai en ton pouvoir. » Barak répondit à Déborah, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas, je refuse de m'y rendre. » « Je t'accompagnerai donc, » déclara-t-elle. « Cependant, tu ne tireras aucune gloire de cette expédition, car c'est à une femme que le Seigneur livrera Sisra. » Déborah se rendit à Kédek avec Barak. Celui-ci y rassembla les tribus de Nephtali et de Zabulon. 10 000 hommes décidèrent de le suivre. Et Déborah elle-même partit avec lui. Sisra apprit que Barak était monté sur le Tabor. Il rassembla alors ses 900 chars de fer et tous ses hommes. Déborah dit à Barak en route, « C'est aujourd'hui que le Seigneur va te livrer Sisra. Le Seigneur lui-même marche devant toi. » Barak descendit du mont Tabor à la tête de ses 10 000 hommes, se lança à l'attaque et le Seigneur mit en déroute devant lui Sisra, tous ses chars et toutes ses troupes. Sisra abandonna son char et s'enfuit à pied. Ses troupes furent massacrées. Sisra s'enfuit en courant jusqu'à la tente de Yaël, femme de Héber le Kénite, parce que la paix régnait entre la famille de Héber et le roi Yabin. Yaël sortit au devant de Sisra et elle lui dit « Entre ici, mon général, entre chez moi, n'aie pas peur. » Il entra dans sa tente, elle le cacha sous une couverture. Épuisé de fatigue, il s'endormit profondément. Yaël prit alors un marteau et un piquet de sa tente, s'approcha doucement de lui et elle lui transperça la tête avec le piquet qui s'enfonça dans le sol. Là-dessus, Barak, qui était à la poursuite de Sisra, arriva. Yaël sortit au-devant de lui et lui dit « Viens, je te ferai voir l'homme que tu cherches. » Il entra dans la tente et découvrit Sisra étendu sur le sol. Ce jour-là, Dieu permit aux Israélites de remporter la victoire sur Yabin, le roi cananéen. Voilà cette histoire de Déborah, dont on ne sait pas beaucoup plus que ce que je vous en ai raconté à l'instant. Dans la tradition juive, il existe 7 femmes prophètes, 7 prophétesses qui vont jouer un rôle éminent dans l'histoire du peuple d'Israël. Il s'agit de Sarah, Myriam, Déborah, dont il vient d'être question, Anna, Abigaïl, Oulga, dont on parlera une prochaine fois, et Esther. Quant à l'ordre de leur apparition, il suit la chronologie et correspond en fait aux grandes périodes du récit biblique de manière assez précise. Celle des patriarches avec Sarah, l'esclavage et la libération avec Myriam, l'installation dans le pays avec Déborah, la fin de l'époque des juges avec Anna, le début de la royauté avec Abigaïl, le déclin de la royauté avec Hulda, et l'exil et la diaspora avec Esther. Déborah, donc, qui nous intéresse ce matin, est l'une de ces femmes. Déborah, c'est celle qui illumine. En plus d'être prophétesse, elle était aussi juge, chef des armées et poétesse. On lui attribue le cantique de Déborah, que vous lirez tranquillement cet après-midi, au chapitre suivant. Je vois Francesco qui rit. Les juges étaient les leaders charismatiques d'Israël dans le temps qui ont précédé la période monarchique. C'était des leaders qui étaient apparus en ayant montré au peuple qu'ils avaient de la valeur, en permettant au peuple de survivre dans des conditions difficiles avant que ce peuple ne réussisse à se trouver un chef digne de ce nom qui pourrait être un roi pour l'ensemble des tribus. Et après la mort d'Éhoud, les Juifs qui ont abandonné les voies de la Torah, qui ont adopté des idoles, c'est un thème récurrent, l'adoption d'idoles étrangères, se détournent de Yahvé, et c'est pourquoi Dieu les fait tomber sous la domination de ce Yabin, ce roi cananéen, qui va les terroriser. Sisra, son général, va opprimer les Juifs, nous dit le texte, pendant 20 ans. Il possédait une armée bien entraînée, il avait des chars en fer, les tanks de l'époque, et le peuple souffrait de cette supériorité militaire. On sait très peu de choses sur Déborah. On sait que c'est la seule qui ait occupé en Israël ce poste de chef militaire et de juge. Elle est appelée « femme de Lapidote ». Vous avez peut-être remarqué ce terme étrange, « femme de Lapidote ». Alors, « femme de Lapidote », on s'est interrogé, ça peut se comprendre de deux manières. Soit c'était le nom de son mari, c'était la femme de Lapidote. Ah, je voulais. Pourquoi pas. Symboliquement, ça pourrait être une bonne explication pour le thème qui m'intéresse ce matin. Ça pourrait dire qu'en plus d'être mariée à ce Lapidote, elle avait un rôle très important. Et que donc, le fait d'être une femme et d'être mariée à l'époque ne voulait pas forcément dire que la place désignée était connue d'avance. Mais Lapidote, en hébreu, c'est les torches. Et donc, ça peut aussi se lire comme la femme des lumières, la femme qui illumine. C'est celle qui dispensait la lumière à travers ses prophéties. Et le Talmud préfère cette seconde idée. Il commente, c'était là un mérite qui lui avait valu le don de prophétie. Elle réfléchissait, fabriquait des mèches plus épaisses pour qu'elles produisent plus de lumière, et le Seigneur qui scrute les reins et les cœurs a dit, tu as voulu augmenter ma lumière, alors j'augmenterai la tienne. Déborah, ce serait alors l'étincelle. L'étincelle qui éclaire ceux qui sont dans l'obscurité, mais aussi dans notre texte, celle qui va mettre le feu aux poudres. Mais la tradition va être ambivalente à son sujet. Et Déborah, malgré le succès de son entreprise, va être moquée au fil des siècles, aussi étonnant que cela puisse paraître, notamment à cause de son nom. Déborah, c'est l'abeille. Et apparemment, c'était un sujet de moquerie. On l'a traitée d'arrogante. On s'est offusqué qu'une femme puisse assumer tant de fonctions d'autorité. Pourtant, les commentaires rabbiniques et talmudiques nous donnent le mode d'emploi de sa singularité édifiante. Elle ne pouvait juger que grâce à l'inspiration divine, mais surtout parce que le peuple l'avait acceptée. Alors on voit que ça se calme, et pourtant non. Vraiment, cette histoire va quand même déranger les hommes. Et Rabbi Naaman, un maître du judaïsme hassidique, dira à propos de Déborah, l'orgueil ne sied pas aux femmes. Aux hommes, ça va, mais Pour les femmes, non, c'est moins bien quand même. Déborah a été orgueilleuse, et en plus elle porte un vilain nom. Et plus loin, il continue avec ce qui constitue pour lui un crime de lèse-majesté. Elle envoya convoquer Barak, au lieu d'aller le trouver elle-même, comme aurait dû le faire une femme à l'époque. Une femme n'envoie pas convoquer un homme. Elle se déplace et elle lui demande gentiment de bien vouloir venir. Mais plus que le manque de respect envers les hommes, c'est l'arrogance envers Dieu qui a parfois été relevée. Et au chapitre suivant, dans le cantique de Déborah que j'évoquais à l'instant, il y a cette phrase qui a fait beaucoup jaser, où Déborah dit « Il n'y avait plus de chef dans le pays d'Israël, jusqu'à ce que j'apparaisse, moi, Déborah, et que je sois comme une mère pour Israël. » Vous voyez donc qu'il y a une ambivalence entre le côté positif de cette figure, le prénom Déborah, vous est familier ? Il est très usité dans le judaïsme, mais aussi dans le protestantisme, j'y reviendrai dans un instant, pas par hasard. Et il y a ce côté un peu gênant pour des hommes qui ont eu du mal à accepter qu'une femme ait autant de responsabilités dans l'histoire du peuple élu, et peut-être et surtout qu'elle serve de modèle à ses suivantes. Cette ambivalence est caractéristique d'une certaine manière de concevoir le rôle de la femme dans la société, un rôle plaqué sur une compréhension de ce que précisément la Bible se refuse de faire, en prenant soin d'apporter régulièrement, et on a vu avec quelle fréquence, des figures féminines capables de renverser les préjugés, ou en tout cas de rappeler leur présence à la fois continue et capitale. Or, ces préjugés aujourd'hui ne sont pas anecdotiques. Et je dis ici, une des raisons qui ont fait que je pensais parler de Déborah ce matin, c'est que j'avoue que j'ai été étonné en discutant avec les catéchumènes cette semaine du rôle des femmes dans la société, dans le protestantisme, dans la modernité triomphante que l'on sait. J'ai été étonné des réponses qui m'ont été faites et de cette vision de la femme qui m'a été décrite à la fois par nos jeunes garçons du bouclier, mais aussi par nos jeunes filles qui, semble-t-il, ne connaissent pas bien Déborah, en tout cas, et sont plutôt influencées par d'autres modèles qui les empêchent de prendre totalement conscience à la fois de leur valeur, mais aussi du rôle qu'elles peuvent être amenées à jouer. Et il se trouve que nous sommes ici au cœur d'un sujet typiquement protestant. C'est que la Réforme va faire changer le regard sur les femmes à une époque où le modèle unique, au moment où les réformateurs commencent à avoir un certain écho, le modèle unique, c'est Marie. La figure de Marie est omniprésente dans la chrétienté. Marie, c'est la mère, mais c'est surtout la Vierge. Et nos réformateurs vont avoir ce réflexe étonnant, il faut le dire, d'aller chercher d'autres modèles. Ils vont retourner vers l'Ancien Testament et ils vont dire ce qu'on nous propose jusqu'à maintenant, ce n'est pas exactement ce qu'on a envie d'enseigner à nos femmes, à nos filles et à nos petites filles. Et ils vont ressortir des figures féminines complètement oubliées. Ils vont redécouvrir des femmes puissantes dont le rôle est complètement impensable à l'époque où eux écrivent, dans le catholicisme du XVIe et XVIIe siècle. Alors je ne referai pas ici le couplet sur l'école pour tous, appelé des vœux de Luther et Calvin, que vous connaissez, que vous avez déjà même peut-être entendu ici même, mais j'établis quand même un parallèle entre ces femmes de l'Ancien Testament, entre Déborah, la prophétesse, et les prophétesses du désert, dans le sud de la France, qui prêchaient en public et qui ont choqué, comme Déborah a choqué à son époque, des hommes qui n'étaient pas habitués à être harangués par des figures féminines qui pourtant les inviter à se battre pour leur liberté de conscience. Et si le militantisme féminin du XIXe siècle a été à son tour une spécificité protestante, vous voyez qu'il y a une forme de continuité, ce ne sont pas des épisodes sporadiques qui apparaissent de manière un peu incompréhensible, il y a un fil rouge dans l'éducation de la réforme qui se poursuit ensuite au XVIIIe, au XIXe, au XXe en France, c'est que les protestantes ont réussi à inventer et à réinventer leur rôle. Et l'histoire de Déborah, et en cela elle n'est pas qu'adressée aux femmes, c'est l'histoire d'un geste. Et c'est là que je voulais en venir ce matin, au-delà du rappel de cette figure qui parfois est un peu oubliée, l'histoire d'un geste qui est le geste de se réinventer, de penser un autre possible pour moi, au-delà des frontières que je me suis construites, ou qu'on a construit pour moi, au-delà de ce dont je pense que je suis capable, ou ce dont on m'a appris que j'étais capable. En l'occurrence, ce geste veut dire « Ah bon, il n'y a pas d'homme capable de faire le job, qu'à cela ne tienne, je prends le relais, je prends les choses en main. Qui a dit que ça devait être un homme ?»« Mon destin, croyez-vous, nous dit Déborah, et de veiller à ce que le repas soit prêt à temps, eh bien, détrompez-vous, car Dieu a un autre projet pour moi. » Et j'aime la manière dont la Bible laisse ouverte la question de l'âge, comme si malicieusement elle voulait nous faire comprendre que ce geste peut avoir lieu à n'importe quel moment de notre vie. L'historienne Liliane Crété, qui a écrit un remarquable « Le protestantisme et les femmes », relève qu'au XVIIIe siècle, la grande différence entre l'enseignement bourgeois catholique et l'enseignement bourgeois protestant, qui apparemment présentait de grandes similitudes, résidait dans le fait que les jeunes filles protestantes étaient instruites avec en ligne de mire une mission qui les attendait dans la vie. On leur apprenait des choses, elles apprenaient par cœur des textes, des poésies, elles faisaient du solfège, elles étaient, de ce point de vue-là, l'équivalent de leur sœur catholique, à la différence près qu'elles seraient invitées un jour à dépasser le cadre dans lequel elles s'inscrivaient et qu'elles sortiraient de l'institution. Le mariage ne signifierait pas pour elles la fin de cette éducation. Le message qui leur était transmis était qu'elles seraient amenées non seulement à être responsables de la tenue de leur foyer, ça, elles n'y coupaient pas, mais aussi de l'enseignement de leurs enfants, ce qui était déjà un progrès, mais aussi de l'enseignement de la société. On a fait comprendre, dès les premières générations de jeunes filles protestantes, on a fait comprendre à des filles qu'elles auraient la responsabilité de la moralité de la société dans laquelle elle voudrait vivre. Et que cette responsabilité, c'était à elle de s'en saisir. Et on retrouve ici l'idée de Déborah, qui est présentée, qui s'auto-présente, mais vous sentez bien que ça a été institué, canonisé, le texte est signé par toute une ribambelle de rabbins qui y ont souscrit. Elle se présente comme la mère, mais pas la mère au foyer, la mère pour Israël. Sommes-nous capables aujourd'hui de nous réinventer à ce point? Avons-nous cette audace d'un geste nouveau pour nous-mêmes et pour les autres? C'est-à-dire, et je terminerai par là, qu'au-delà de toute critique un peu vaine des traits de cette société qui parfois ne nous plaît pas, sommes-nous des parents, des parrains, des marraines, des grands-parents qui bien sûr essaient de transmettre à nos jeunes une conscience d'elles-mêmes, de leurs valeurs, mais aussi une capacité, une liberté de penser, ce geste souverain de Déborah, qui est capable un jour de dire « C'est moi, j'y vais, il n'y a personne d'autre, je prends la responsabilité. » Je crois que Cette figure est pertinente. Aujourd'hui, je pense que pour les jeunes filles dont j'ai la charge au catéchisme et qui sont âgées d'une quinzaine d'années, ce combat n'est pas gagné. Je pense que les modèles qui leur sont proposés, les exemples qu'elles voient à longueur de journée sur les abribus et sur Internet ne correspondent pas à la valeur qui est la leur. Et je veux croire que Déborah est un exemple qui peut nous aider à transmettre à nos filles et à nos garçons ce que nous pensons que Dieu est capable de porter pour nous comme projet. Amen.
Vous venez d'écouter une méditation de l'Église réformée du Bouclier. Bonne route, bonne suite, bénédiction, avec tout ce que vous avez reçu en parole qui parle de Dieu, du monde et de vous.